Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
De prison pour Bosco Ntaganda, ancien chef rebelle qui a endeuillé l'Ituri notamment. Le verdict est tombé hier à la Cour pénale internationale. Satisfaction pour des ONG des droits de l'homme et déception pour son ancien groupe armé mué en parti politique. Crise de confiance entre les civils et les FARDC récemment déployés à Minembwe au sud Kivu. Les populations locales accusent l'armée de léthargie face aux miliciens qui s'attaquent aux civils. Constat fait par une délégation des agences du système des Nations Unies en mission sur place. Et puis, l'invité de ce matin, Léon Tosuesue, directeur de la province éducationnelle Kasaï Centrale 1, il parle du bien fondé du plan d'action opérationnel validé récemment à Kananga pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans ce coin du pays. Madame, Messieurs, bonjour. Bosco Ntaganda écope de 30 ans de prison. C'est la peine la plus lourde prévue par la Cour pénale internationale. Elle a été prononcée hier contre l'ex-chef rebelle. Les 6 ans que Ntaganda a passé en détention seront déduits de cette peine. Aucune circonstance atténuante n'a été retenue par les juges de la CPI. Ces derniers ont estimé que les éléments constitutifs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans lesquels Bosco Ntaganda est impliqué sont d'une extrême gravité. Ces crimes, notamment des meurtres, pillages et viols ont été commis en Ituri en 2002 et 2003. Sur place, dans cette province, l'Organisation des défenses des droits de l'homme Justice Plus parle d'une victoire pour des milliers de victimes. Martial Kiza.
L'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda alias Terminator est condamné auteur et co-auteur de 18 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'il aurait commis dans 49 localités du territoire de Ndjougou et Irumu en Ituri. Une peine que l'Organisation de défense des droits de l'homme Justice Plus juge conforme au préjudice qu'ont subi et de les victimes. Son coordonnateur Xavier Maki parle d'une victoire des victimes.
Très satisfait par cette décision. Le souci pour nous et toutes les victimes, c'est que de voir demain les victimes obtenir une ordonnance de réparation pour que tous les préjudices qui ont été connus par ces victimes soient réparés.
Son ancien groupe armé, aujourd'hui parti politique Union des Patriotes Congolais, IPC, s'est dit déçu de ce jugement qui, selon lui, ne reflète pas la réalité de ce qui s'est réellement passé. Un de ses cadres politiques, Pélé Kassouara, explique.
Au même moment, nous sommes déçus, mais nous savions que la Cour pénale arriverait à de telles monstruosités juridique. Si cette cour était sérieuse, elle devrait venir nous dire qui a vraiment tué un Ituri. Jusque-là, on ne dit pas. C'était 60 000 morts.
Notons qu'au stade actuel, 2199 victimes ont participé à ces procès assistés de leurs avocats. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Pour sa part, l'analyste Fidèle Bafilemba, depuis Goma, estime que le condamné a joué un rôle important dans d'autres crimes de guerre et crimes économiques commis au Nord Kivu entre 2007 et 2012. Des crimes pour lesquels aucune poursuite n'a été engagée jusqu'ici. Pour lui, en effet, cette condamnation devrait concerner aussi tous les commanditaires des faits reprochés à Ntaganda. Fidèle Bafilemba s'explique.
Bosco Ntaganda, je pense que ce n'est qu'on le mot d'un maillon, un grand maillon en tout cas, des crimes organisés, des crimes économiques, des crimes de guerre, et malheureusement tous ces crimes au service de l'impérialisme. Personnellement, je ne peux pas me réjouir en tout cas de la simple condamnation de Bosco Ntaganda. J'aurais souhaité que plutôt les multinationales en tout cas payent. Et donc Bosco Ntaganda n'est pas certainement un grand signal pour la justice dont on devrait se réjouir.
Justice toujours. À propos du meurtre de l'administrateur général du centre de santé Vidiana ici à Kinshasa, la haute cour militaire a décidé de poursuivre Doli Makambo et son chauffeur Serge Kamanda. Dans son arrêt avant dire droit rendu hier, la cour a rejeté les requêtes des parties prévenues qui avaient récusé toute la composition. Ainsi, le ministre provincial de l'Intérieur et son chauffeur ont été sommés de payer au juge une amende de 500 000 francs et de payer 100 000 francs des frais d'instance en ayant 8 jours. Selon la cour, les accusations d'inimitié et autres portées contre les juges ne sont fondées. Dans l'actualité, sachez aussi que la plénière d'hier à l'Assemblée nationale a été perturbée. Les députés nationaux de la FDCA du sénateur Bahati Lukwebo dénoncent le dédoublement de leur parti politique par le bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont pris d'assaut le perchoir de la salle de congrès, perturbant ainsi le début de la plénière et ayant pris la parole par motion incidentielle. Ces députés exigent la stricte application de la loi face à la dissidence. Un reportage de Michel Kifindangoy.
C'est dans une forte tension frôlant la bagarre que les députés de l'AFDC ont pu obtenir la parole par motion incidentielle pour dénoncer, selon eux, la complicité du bureau de l'Assemblée nationale dans le dédoublement de leur parti politique. Adèle Zaïnda, président du groupe parlementaire AFDCA.
Aujourd'hui, nous avons bien voulu nous défendre en plénière. Parce que le bureau a consacré et travaille de connivence avec les dissidents qui sont identifiés sous AFDCA/FCC. FCC, c'était une plateforme électorale qui n'a pas de personnalité juridique. Et nous, nous avons été élus sous le label AFDCA. Nous allons nous prendre en charge en plénière.
Tel qu'envisagé par la conférence des présidents, la présidente de l'Assemblée nationale propose d'envoyer la question à la commission politique, défense et sécurité. Janine Mabunda.
Et se référant aussi aux pratiques du passé, la conférence des présidents ont décidé de confier un travail d'analyse à la commission PAG.
Proposition adoptée par la plénière après débat, l'AFDCA plaide pour que la commission PAG dise réellement le droit.
Je vous le disais en titre, au sud Kivu, une crise de confiance persistante règne entre les civils et les FARDC dans les hauts plateaux de Minembwe et territoire de Fizi. Le constat a été fait par une délégation conjointe de la MONUSCO, du ACR, de Ocha et du PAM, revenue hier de cette zone. La délégation était allée évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans cette région en proie à l'insécurité. Fiston Ngoma était de la partie.
Les membres de l'équipe onusienne ressentent une crise persistante de confiance entre les civils et les FARDC récemment déployés dans la région. Les déplacés, quelques notables, déclarent que les troupes de l'armée régulière engagent très rarement des combats contre les miliciens qui s'attaquent aux populations civiles et qui les dépouillent de leur bétail. Cette situation serait à la base du mouvement des populations vers Minembwe Centre. Parmi ces déplacés, le révérend pasteur d'une église locale de Kabara Kamombo, Mourana Sekaruba.
Ce sont des Maïmaï qui font cela, ce n'est pas nous. Tout ce qui s'est passé, le gouvernement était là. Il y avait beaucoup de positions là-bas, ils n'ont rien fait.
Pour le membre du conseil local de sécurité, ce sont les miliciens Maïmaï qui constituent la principale menace dans la région. Ils sont localisés à 3 km de Minembwe Centre et pourraient à tout moment attaquer les civils. Le bourgmestre de la commune de Minembwe, Gadi Mukiza.
Si les FARDC ont pu maîtriser les M23, les SNDP, et d'autres groupes plus forts, comment ils peuvent échouer devant les Maïmaï? C'est la question qu'on se pose aussi, maîtrise de la région ou manque de volonté de s'engager, de travailler comme il faut.
De son côté, la MONUSCO continue à déployer ses troupes dans la région. Après la visite des sites de Bidjombo et Kamombo hier mercredi avec le commandant de FARDC Sokola de Sud-Sud, le général Joseph Banza Kabulo, un autre site de casque bleu est envisagé à Kipupu dans les territoires de Mwenga en vue de protéger les déplacés. Des retours de Minembwe, Fistongo Mamayaba, la radio Kapi.
À Beni, le comité d'appui à la riposte contre Ebola condamne l'attaque perpétrée par des miliciens Maïmaï mercredi contre le centre de santé de Ngoyo. Ce centre qui collabore dans la riposte contre Ebola est situé dans la zone de santé de Mabalako, proche de Mangina. Trois motos des sensibilisateurs de la riposte ont été incendiées, ainsi qu'une grande partie de ce centre de santé. Le responsable du comité d'appui à la riposte contre Ebola pense qu'il est temps de mettre un terme à ces actes inciviques. Omar Kavota, au micro de Marc Marofimbo.
Nous voudrions dénoncer par les termes les plus forts cette attaque contre la structure médicale du centre de santé de Ngoyo. Et cela juste parce que pour les auteurs de ces forfaits, ce centre est en train de coopérer efficacement avec les équipes de la riposte et il faut décourager ces interventions. Nous pensons que tous nous sommes conscients qu'on vient d'enregistrer de nouveaux cas de maladie à virus Ebola. À Beni, à Mabalako, il y a toujours des cas qui sont en train d'être enregistrés. Bref, si on ne prend pas les taureaux par ses cornes, nous risquons aujourd'hui de retourner dans cette case de départ où on a enregistré la résistance communautaire et la résistance armée. Alors, il faut mettre fin à toute cette anarchie parce que l'armée est engagée à en finir avec les groupes terroristes et les groupes alliés qui servent de béquilles à ces terroristes.
Et dans le Tanganyika, les chefs coutumiers s'engagent à accompagner le gouvernement provincial dans ses efforts de sensibilisation à la reddition des groupes armés et à la cohabitation pacifique entre les communautés. À ce sujet, justement, quatre chefs coutumiers vont quitter Kalemi en compagnie des leaders des groupes armés qui ont choisi de s'y rendre. Leur mission, sensibiliser les groupes réfractaires. Le gouvernement provincial vient de leur donner 7 jours pour réussir la dite mission. Confirmation avec le président de l'association en parole des chefs coutumiers pour la paix et le développement du Tanganyika, le chef Kaompoa au micro d'Expedi Mwamba Mubi.
On a ciblé 4 axes. L'axe Kalemi, Kioko, Kaompoa, Kisengo, Kilunga. axe Kalemi Bendera Lambokilela Mokatenga, axe Kalemi Lambokilela Mulolo, axe Lambokilela Mukundi Kankwala. Alors on fait la sensibilisation avec le gouvernement provincial. Alors on a maintenant disposé 4 chefs, un chef par axe pour accompagner ces leaders. Et après 7 jours, nous serons de retour pour venir remettre les rapports auprès du gouverneur de province, son excellence, monsieur le gouverneur Zoé Mazambara Kabila. Aux troupes qui faisaient les conflits, qui faisaient les désordres, le message c'est uniquement qu'ils puissent se rendre d'abord au gouvernement, laisser tous les désordres, découper des routes, de tuer les gens, donc le moment est venu de la paix, pour se mettre à tous dans la cohabitation pacifique des Twa et Bantou.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'inauguration officielle du nouveau musée national de la RDC, initialement prévue le 6 novembre, est reportée au samedi 23 novembre prochain. Ce musée situé sur le boulevard Triomphal à Kinshasa est le fruit des relations et de coopération entre Kinshasa et Séoul. Sa construction a été financée par le gouvernement sud-coréen à hauteur de 21 millions de dollars.
Actualité internationale.
Nous sommes d'abord au Burkina Faso. Un deuil national de 3 jours a été décrété hier. C'est après l'embuscade la veille contre un convoi d'une société minière qui a fait 38 morts selon un dernier bilan. L'attaque attribuée aux djihadistes est la plus meurtrière qu'ait connue le pays. À Lyon, en France, le procès de 23 personnes impliquées dans un vaste réseau de prostitution des femmes nigérianes s'est poursuivi pour la 3e journée consécutive. Aujourd'hui, c'est au tour de Cynthia de comparaître devant le tribunal correctionnel. C'est une Nigériane de 28 ans et phénomène rare dans un procès. Elle est à la fois partie civile et prévenue. Partie civile car elle a d'abord été contrainte de se prostituer et s'estime donc victime du réseau, mais aussi prévenue car une fois la dette remboursée, elle serait devenue une mama, autrement dit une proxénète.
L'invité.
La province éducationnelle Kasaï Centrale 1 a validé depuis quelques jours son plan d'action opérationnel. Invité de Radio Kapi, Léon Tosuessu est directeur. Son directeur explique que ce caneva planifie toutes les activités à mener tout au long de l'année scolaire 2020. Léon Tosuessu s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur le directeur.
Bonjour monsieur le journaliste Blaise.
La province éducationnelle Kasaï Centrale 1 s'est dotée de son plan d'action opérationnel 2020. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces documents?
Merci beaucoup. Nous avons procédé à la validation des plans d'action opérationnel de la province éducationnelle Kasaï Centrale 1. C'est un outil de travail qui nous est imposé par les responsabilités que nous tenons. Chaque année, nous devons élaborer un plan d'action opérationnel. Comme le terme l'est dit, nous devons planifier les activités à mener au cours de l'année et cela conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Le plan doit tenir compte des différents niveaux de l'enseignement que nous appelons à travers la stratégie les sous-programmes. Nous avons le sous-programme préscolaire, nous avons le sous-programme primaire, le sous-programme premier niveau du secondaire, le sous-programme secondaire général, le sous-programme enseignement technique et le sous-programme gouvernance et pilotage de notre système éducatif.
Qu'est-ce qui doit être fait dans chaque sous-programme?
À travers chaque sous-programme, nous avons les différents axes stratégiques. Il y a l'accès, la qualité et la gouvernance. Nous devons planifier les actes à travers chaque sous-programme. C'est ce que nous avions fait avec l'appui technique de notre partenaire Accélère 2. Ces documents s'élaborent à partir du rapport de la revue des performances que nous appelons communément la promo scolaire. Et la promo scolaire commence au niveau de chaque école. Chaque école a un caneva de la revue de l'établissement. À la fin de l'année scolaire, l'école doit élaborer son revue, c'est-à-dire évaluer l'année scolaire passée et planifier l'année scolaire prochaine. Chaque école envoie son rapport au niveau de la sous-division. La sous-division centralise. On organise la revue annuelle au niveau de la sous-division. Et enfin, toutes les sous-divisions canalisent les rapports au niveau de la province et nous élaborons le rapport de la revue de performance de la province éducationnelle. Cette revue nous permet de cerner les indicateurs dont on était performant au courant de l'année et dégager les indicateurs dont on n'était pas performant. Et cela nous permet maintenant d'élaborer le plan d'action annuel opérationnel.
Alors, quelles sont les activités phares retenues dans ces plans d'action opérationnels?
Oui, comme vous le savez, notre province venait de sortir des événements de triste mémoire. Il y a plus de 400 écoles qui ont été détruites, incendiées. Nous avons planifié à travers ce programme la reconstruction ou la réhabilitation des écoles, au niveau surtout primaire et secondaire. Il y a aussi les partenaires comme et l'UNICEF qui a reçu les fonds de l'USAID. Il y a aussi World Vision qui intervient dans ces secteurs-là. Nous avons planifié la construction, la réhabilitation des écoles. Nous avons planifié pour le sous-programme enseignement préscolaire, la sensibilisation des communautés quant à l'importance de l'enseignement préscolaire. Nous avons planifié la dotation de ces écoles en programme et en manuel. Nous avons planifié aussi la formation des directeurs et des éducatrices de maternelle. Au niveau primaire, en dehors des constructions des écoles, nous avons planifié la formation des enseignants, la redynamisation des unités pédagogiques, la dotation des écoles en manuel et au support pédagogique. Et puis, au niveau du premier degré de l'enseignement secondaire, nous avons planifié la formation des enseignants en DAS. Ça, c'est le domaine des sciences. C'est une réforme qui vient d'entrer, que nous sommes en train de vulgariser. Vous savez, cette année, on a généralisé le programme de DAS pour la 8e année. Il faut que tous les enseignants qui donnent le cours de domaine des sciences soient formés au courant de l'année.
Ce plan a-t-il prévu de construire combien d'écoles à travers la province éducationnelle Kassé Central 1?
Nous sommes partis de ce que le gouvernement provincial a prévu, ce que le partenaire UNICEF avec les fonds de l'USAID a prévu. Là, au moins, on a 51 écoles avec les fonds de l'USAID et nous avons au moins 7 écoles primaires pour le gouvernement provincial, plus 2 écoles secondaires techniques avec le gouvernement de la province éducationnelle. Et nous sommes sûrs qu'avec tous les contacts que le gouverneur a eu avec les partenaires et toutes les promesses faites, on ira peut-être au-delà.
Qui finance cet outil de travail et à hauteur de combien?
Le plan, selon les différentes activités que nous avons retenues, sera financé par le gouvernement central, le gouvernement provincial, par les partenaires techniques et financiers. Nous sommes dans le 1 250 000 dollars pour l'ensemble du programme.
Messieurs, Léon Toussoussoué, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Voilà, c'était là notre invité, le directeur de la province éducationnelle Kassai Central 1. Il répondait aux questions de Blaise Ndongala. Par ici, nous mettons un terme à ce journal supervisé par Axel Goncho. La mise en onde de Mimi Kindou. Merci.